Coulam.
Raphaël Assine, bonjour.
Bonjour Guy, bonjour aux auditeurs de Coulam Radio.
Merci Raphaël, vous qui êtes journaliste correspondant de Coulam Radio en Israël. Alors, nous avons vécu hier soir une soirée historique. Que pouvez-vous nous dire de cette soirée et des résultats? D'abord, comment s'est passée la soirée à la Knesset?
Oui Guy, c'est une soirée historique qu'a vécu hier soir Israël. Un changement d'air. La Knesset a voté hier soir et a approuvé la création d'un nouveau gouvernement formé par le chef de Yamina, Naftali Bennett, et le président de Yesh Atid, Yair Lapid. Pour rappel, 120 députés siègent à la Knesset, le Parlement israélien. 60 députés ont voté pour le nouveau gouvernement, 59 qui sont opposés, le député Saed al-Haromi de la liste Raham, est abstenu. En Israël, un gouvernement peut être intronisé sans majorité absolue. Il lui suffit d'avoir plus de votes en sa faveur que contre lui, et c'est ce qui s'est passé hier soir. Après ce vote, Naftali Bennett a prêté serment en tant que 13e Premier ministre de l'histoire d'Israël. En remontant seulement jusqu'au début des années 2000, Naftali Bennett succède à Benjamin Netanyahou, Ehud Olmert, Ariel Sharon et Ehud Barak. Il est donc le 13e Premier ministre de l'État. En 1948, c'est David Ben-Gurion qui avait occupé le premier cette fonction.
Alors, un gouvernement, nombreux ministres, quelque peu hétéroclite. Alors, quels sont les ministres importants de ce gouvernement ?
Alors, il s'agit dans un premier temps du 36e gouvernement d'Israël et c'est le 3e en importance de l'histoire du pays avec 27 ministres. Yair Lapid avait fait de son côté campagne sur une baisse drastique du nombre de ministres et lors d'une interview récente à la télévision israélienne, il a annoncé qu'il regrettait ce nombre élevé de ministres. Avec 36 ministres, le gouvernement précédent de Gantz Netanyahou détient aujourd'hui le record de la coalition la plus importante. Donc ce gouvernement hier à la Knesset a été soutenu par 8 des 13 partis qui ont remporté des sièges aux élections du 23 mars pour un total de 60 voix sur les 120 membres de la Knesset. Les 17 députés de Yesh Atid ont voté pour, les 8 députés de Bleu Blanc, les 7 d'Israël Beitenu, les 7 du Parti Travailliste, seulement 6 des 7 députés de Yamina. En effet, le député Amichai Chikli s'est opposé à la formation de ce gouvernement avec la gauche, s'écartant ainsi de la ligne de son parti. Les députés de Nouvel Espoir, qui sont 6 à la Knesset, ont également voté tous pour ce gouvernement. Les 6 députés de Meretz aussi. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, seulement 3 des 4 députés de Raham ont voté pour. Le Likoud, le parti sioniste religieux, chasse les judaïsmes unifiés de la Torah, et la liste arabe unie ont voté contre ce gouvernement. Alors, pour les détails de l'accord de coalition, le Premier ministre Naftali Bennett servira d'abord en tant que Premier ministre pendant 2 ans dans le cadre d'un accord de rotation avec Yair Lapid. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères sera donc Yair Lapid sur les deux premières années. Son principal défi sera de faire face à l'administration Biden sur le conflit avec les Palestiniens et sur le dossier du nucléaire iranien. Le ministre de la Défense reste entre les mains de Benny Gantz du parti bleu-blanc. Le ministère des Finances sera dirigé par Avigdor Lieberman du parti Israël Beitenu. Son parti dirigera également la commission des finances de la Knesset, c'est-à-dire qu'Israël Beitenu a une main mise total sur les caisses de l'État. Le ministre de la Justice du prochain gouvernement sera Gideon Sar, un dissident du Likoud qui a présenté une liste indépendante lors des dernières élections, une liste qui s'appelle Nouvel Espoir. Le ministre des Transports sera Mirav Mikhaeli, la dirigeante du Parti Travailliste. Son dossier de travail le plus important sera la circulation des transports publics le Shabbat. Nitzan Horowitz, le chef du parti Meretz, sera ministre de la Santé. Yifat Chacha Biton, du parti de Gideon Sar, sera ministre de l'Éducation. Zev Elkin, également du parti de Gideon Sarr, sera ministre de la Construction et du Logement, mais également des Affaires de Jérusalem, mais également de la liaison entre la Knesset et le gouvernement. Alors vous allez me dire, pourquoi Zev Elkin a autant de ministères entre ses mains? Et je vais vous répondre tout simplement qu'il a menacé de ne pas voter pour cette coalition. Sans lui, il n'y aurait pas eu de gouvernement. Donc, on lui a donné beaucoup de responsabilités pour qu'il accepte de siéger dans cette coalition. Ensuite, Pnina Tamano-Chata conserve son poste de ministre au ministère de l'Intégration. C'est une ministre originaire d'Éthiopie qui a fait énormément pour la poursuite de l'ALIA pendant la période du Covid-19. Enfin, un ministre arabe sera à la tête du ministère de la Coopération régionale. Il s'appelle Issaoui Frej. Il est élu du parti Meretz et il obtient un poste stratégique car il sera en lien avec les pays voisins comme la Grèce et Chypre sur la question du gaz en Méditerranée et également avec les pays arabes comme les Émirats arabes unis et Bahreïn. Il y a eu également, il faut le préciser hier, un autre vote à la Knesset pour remplacer le président de la Knesset, le député Yair Levin, a laissé sa place au député Miki Levi du parti Yesh Atid. Levi a reçu le soutien de 67 députés.
Alors, avant que vous nous permettiez de mieux connaître qui est Naftali Bennett, peut-être une réflexion d'après les apparences et de ce qui était mis en avant par cette nouvelle coalition, il s'agit, disent-ils, d'un gouvernement d'union nationale, cela semble paradoxal.
Oui, parce que seulement 60 députés ont voté pour ce gouvernement. Ce gouvernement est légal, mais est-ce qu'il est légitime et est-ce qu'il représente une union nationale? Ça, c'est plus compliqué. En effet, le Premier ministre actuel, Naftali Bennett, n'est soutenu que par 6 députés de son parti à la Knesset. Le Likoud, qui est arrivé en tête lors des élections du 23 mars, n'est pas représenté dans la coalition. C'est-à-dire que plus d'un million d'électeurs israéliens qui ont voté pour le Likoud ne se sentiront pas représentés par ce gouvernement. Mais pas seulement les électeurs du Likoud, les électeurs des petits partis orthodoxes, des sionistes religieux, qui ont voté indirectement pour Benjamin Netanyahou, ne seront pas représentés. Il faut également savoir, Guy, que 61% des électeurs de Yamina, lors des élections du 23 mars, ont annoncé qu'ils n'auraient pas voté pour cette liste s'ils avaient su que Naftali Bennett formerait une telle coalition. Enfin, le parti Ram, avec seulement 167 000 voix lors du dernier scrutin, ne représente pas toute la communauté arabe israélienne composée de 2 millions de citoyens, mais seulement une petite frange d'entre elles. Ça fait beaucoup d'insatisfaits. Et un sondage a été publié jeudi dernier. Vous savez, en Israël, on sonde l'opinion, même hors période électorale, pour savoir ce qu'ils auraient voté en cas de nouvelle élection législative. Le Likoud, toujours dirigé par Benjamin Netanyahou, obtiendrait 30 sièges. Yesh Atid, qui avait obtenu 17 sièges, en obtiendrait cette fois 23. La liste du sionisme religieux en obtiendrait 9. C'est un renforcement car il récupérait les électeurs de Judée-Samarie qui avaient voté pour Naftali Bennett. Ils sont récompensés car ils ont gardé une ligne claire. Pas d'alliance avec les partis arabes. C'est ceux qui ont empêché Netanyahou d'aller plus loin dans les négociations avec Mansour Abbas. Enfin, je ne vais pas faire tous les partis, mais le parti Yamina de Naftali Bennett n'obtiendrait que 4 sièges, c'est-à-dire qu'il est à la limite de passer le seuil électoral. Donc ce gouvernement, il rassemble un Premier ministre qui porte une kippa, un ministre arabe, un ministre druze, un ministre homosexuel, 9 femmes ministres, soit un tiers de la coalition, 2 formations classées à droite, voire à l'extrême droite, 2 formations de gauche, voire d'extrême gauche, et un parti islamiste proche des frères musulmans. Et pourtant, ce gouvernement n'est pas si hétéroclite que cela. Dans un premier temps, il n'existe que par une volonté commune de faire chuter Benjamin Netanyahou. Bravo à eux, ils ont réussi. Mais idéologiquement, ces partis, à l'exception de Ram, ont des points communs. Ils sont progressistes. En Israël, on ne peut plus parler de clivage entre la gauche et la droite. c'est idiot de dire que Naftali Bennett, Avigdor Lieberman, que Gideon Saar sont des hommes de gauche. Ils sont de droite, mais une droite progressiste qui tend la main aux Israéliens laïcs. Ils sont pour les évolutions dans la société refusées par les juifs orthodoxes. Un électeur du Parti travailliste ressemble plus sociologiquement à un électeur du Parti Yamina qu'à un électeur du Parti Chasse. Si on veut parler d'union nationale, il faut remonter, par exemple, aux élections législatives de 1984. Une liste d'union des gauches, dirigée par Shimon Peres, avait obtenu 44 sièges. Le Likoud avait obtenu 41 sièges. Ils avaient formé ensuite une alliance avec d'autres petites listes pour obtenir une coalition de 97 députés. Vous imaginez à l'époque qu'une majorité des Israéliens étaient donc représenté dans la coalition. Shimon Peres et le dirigeant du Likoud, Yitzhak Shamir, étaient tombés d'accord pour le partage du pouvoir avec Shimon Peres comme premier ministre les deux premières années et Yitzhak Shamir les deux dernières de la session de la Knesset.
Alors, revenons sur le nouveau premier ministre, Naftali Bennett. Nos auditeurs, évidemment, qui ne sont pas de férus de la vie politique israélienne, connaissent moins ce personnage qui est à la tête d'un parti ayant réuni 6 sièges. Que peut-on dire de lui?
Alors, Naftali Bennett est né à Haïfa en 1972. Il est le fils d'immigrants juifs américains de Californie. Il a grandi dans un foyer laïque, mais sa famille est devenue de plus en plus religieuse lorsqu'il était enfant. Il a servi comme commandant dans les unités d'élite de Tzal, Sayeret Matzal et Maglan avant d'étudier le droit à l'université hébraïque de Jérusalem. Après avoir obtenu son diplôme, il a fondé Ciota, une société de logiciels anti-fraude de haute technologie, et a ensuite passé plusieurs années à New York en tant que PDG. Il a supervisé la vente de cette société pour 145 millions de dollars en 2005. Bennett a répété cet exploit lorsqu'une autre de ses sociétés a été vendue en 2009 pour 130 millions de dollars. À son retour en Israël, Naftali Bennett s'est tourné vers la politique et a été chef de cabinet de Benjamin Netanyahu, alors chef de l'opposition. En novembre 2012, Bennett a été élu à la tête du parti religieux sioniste de droite, Baït Yehudi. Il a dirigé le parti aux élections de 2013 et a remporté 12 sièges à la Knesset. Après les élections de 2015, il a été nommé ministre de l'Éducation. En décembre 2018, Naftali Bennett et sa partenaire politique, Ayelet Shaked, ont formé le parti Nouvelle Droite, Hayamim Ahadash en hébreu, avant les élections d'avril 2019, mais il n'a pas réussi à franchir le seuil électoral. Pour rappel, à cette époque, il avait acté le divorce avec les sionistes religieux, refusant les alliances avec ses anciens camarades du Baït Yehudi, de l'Union nationale, et donc il s'était présenté seul avec une liste, Hayamim Ahadash à l'époque, qui avait déjà la volonté de s'ouvrir au reste de la société et à parler à des électeurs laïcs de droite. Il n'avait pas passé le seuil électoral. Par chance, aucun gouvernement n'a réussi à être formé après ces élections. Il a donc pu retenter sa chance à 2, voire 3 reprises pour arriver à l'élection du 23 mars 2021. Sa liste Yamina a réuni 273 890 voix et a envoyé 7 députés à la Knesset.
Alors, Benjamin Netanyahu, hier soir, semble-t-il, a eu un discours extrêmement décontracté. On ne sentait pas la tension que l'on pouvait imaginer. Il a terminé son intervention par « We will back soon ». Nous serons de retour bientôt. Quel est son avenir?
Alors, dans un premier temps, le mandat de Netanyahu a pris fin hier soir. Pour rappel, pour nos auditeurs, Netanyahu a été Premier ministre dans un premier temps sur une période au milieu des années 90, entre le 18 juin 1996 et le 6 juillet 1999. Il a ensuite été Premier ministre à la fin des années 2000 jusqu'hier, donc du 31 mars 2009 au 18 mars 2013, puis du 18 mars 2013 au 6 mai 2015, du 6 mai 2015 au 17 mai 2020, avec la chute du gouvernement provoquée en novembre 2018 par la démission d'Avigdor Lieberman, Netanyahou s'est maintenu au pouvoir pendant le cycle d'élections d'avril 2019, de septembre 2019 et de mars 2020. Du 17 mai 2020 jusqu'au 13 juin 2021, il a formé un gouvernement avec le centriste Benny Gantz. Benjamin Netanyahou a été clair hier. Il ne quittera pas la politique malgré son départ du bureau du Premier ministre. Il est le chef de l'opposition, le chef du Likoud. Il est le candidat du parti au poste de Premier ministre lors des prochaines élections. La suite de la carrière politique de Benjamin Netanyahou dépendra, pour moi, de la durée de vie de la nouvelle coalition et de l'issue, évidemment, de son procès. Les premiers défis de Netanyahou, c'est d'affronter les oppositions internes au Likoud avec un Nir Barkat de plus en plus offensif et d'autres ténors du parti qui souhaitent prendre sa place. Ensuite, il devra retenir les orthodoxes dans l'opposition et les empêcher de rejoindre la coalition. Il faut savoir que Naftali Bennett, hier, dans son discours et lors des négociations gouvernementales, a toujours ouvert la porte aux orthodoxes. Il a besoin d'eux pour élargir sa coalition, avoir une base plus solide à la Knesset, qui ne tient aujourd'hui qu'à un seul député pour voter ses lois. Donc, ils vont évidemment chercher à rallier les orthodoxes, et Netanyahou va essayer de les garder avec eux dans l'opposition. Et Netanyahou est déjà dans l'action, parce que dans quelques heures, il réunit les membres donc du bloc de droite, du bloc de l'opposition, qui aujourd'hui réunit quatre partis, le Likoud, les sionistes religieux, Chasse et le judaïsme unifié de la Torah, quatre partis qui espèrent, lors de prochaines élections, obtenir 61 sièges pour revenir au pouvoir.
Alors, ce gouvernement quelque peu hétéroclite, d'après certains, n'aurait pas la capacité de pouvoir durer longtemps. Qu'en pensez-vous personnellement et quel est, d'après les accords de coalition, la ligne politique dominante de ce gouvernement?
Alors, à votre première question, je vais répondre oui. Oui, je risque de surprendre les auditeurs qui ont entendu un peu partout que ce gouvernement n'était fait que de briques et de brocs, qu'il était un gouvernement chakchouka, que tous les partis de ce gouvernement ne pensaient pas pareil, et pourtant, je vous annonce qu'il va durer. Naftali Bennett joue sa survie politique. Son parti pourrait ne pas franchir le seuil électoral si des élections sont organisées dans les prochains mois. Il a tout intérêt à se maintenir en place, et les députés de son parti, qui sont devenus aujourd'hui ministres, également Gideon Saar, joue également sa survie politique. Si lui avait annoncé qu'il souhaitait la chute de Benjamin Netanyahou, ses électeurs imaginaient plutôt une alliance avec le Likoud débarrassé de son chef historique. Lieberman tient les caisses de l'État et n'a aucune raison de quitter le gouvernement. C'est son programme social et sociétal qui sera appliqué. C'est lui qui a été le plus intransigeant lors des négociations sur les lois, les premières lois à voter à la Knesset. Il est en position de force et ne cédera pas. Les partis de gauche, Meretz et Avoda, vivent ce gouvernement comme une victoire. Ils ont avancé un agenda social et sociétal. Ram est le parti le plus isolé idéologiquement, musulman conservateur face à des juifs progressistes. Cependant, ce gouvernement pourra compter ponctuellement sur les voix des autres députés arabes de la Knesset pour voter ces lois, les députés de Hadash, de Taïf et de Balad, qui, pour certains d'entre eux, ont voté pour le président de la Knesset, issu des rangs de Yesh Atid, hier. Vous savez, ce qui s'est passé à la Knesset hier est très intéressant. Lors du vote pour la coalition, les députés arabes qui font partie de la liste unifiée sont d'abord sortis de la Knesset, sont revenus et ont entendu que le vote était entériné pour ensuite voter contre. Si il y avait peut-être un siège qui manquait à la coalition, un député de cette alliance aurait sûrement voté pour. Donc je pense que ce gouvernement va tenir, ils ont tout intérêt à tenir, et tant que Benjamin Netanyahou est dans l'opposition et que le Likoud se maintient dans les sondages aux alentours de 30 sièges à la Knesset, ils ont tout intérêt à rester unis. Ils n'auront pas un agenda très idéologique, on va dire. Ils vont avancer des lois plutôt sociales et sociétales, comme les transports publics, le Shabbat, l'ouverture de droits pour les couples LGBT, les commerces, le Shabbat, la loi d'appel des étudiants religieux pour l'armée. Ils vont également tenter d'établir des relations cordiales avec l'administration Biden, mais il n'y aura pas d'avancée du point de vue du conflit israélo-palestinien qui est trop sensible, il y a trop d'écart dans la coalition idéologique sur cette question. Ils vont plutôt se mettre d'accord sur un agenda social plutôt qu'un agenda territorial ou de résolution du conflit.
Alors pour conclure, on va parler d'un calendrier immédiat, d'un cadeau empoisonné que le précédent gouvernement a laissé au nouveau gouvernement. C'est cette fameuse marche des drapeaux qui doit se tenir aujourd'hui à Jérusalem.
Oui, alors la marche des drapeaux doit se tenir mardi, donc demain à Jérusalem, et le groupe terroriste a mis en garde contre la tenue de cette marche des drapeaux, ajoutant que si l'itinéraire prévu de cette marche ne changeait pas, le groupe réagira comme il l'a fait lors de la précédente série d'hostilités. Il faut se rappeler que les premières roquettes tirées vers Israël lors du dernier conflit avaient été tirées vers Jérusalem le jour d'une marche également des drapeaux, une marche organisée par une partie de la jeunesse israélienne, sioniste religieuse, qui marche dans la vieille ville de Jérusalem et qui, cette marche est perçue comme une provocation pour le groupe terroriste Hamas, mais également pour l'autorité palestinienne. C'est une marche qui affirme en réalité la souveraineté d'Israël sur la ville de Jérusalem, ce qui ne plaît évidemment pas au mouvement terroriste Hamas et à l'autorité palestinienne. Avant la prestation de serment du nouveau gouvernement, le chef de la police, Kobi Shabtai, avait annoncé qu'il était trop dangereux pour la sécurité de l'État que cette marche soit annulée. Il y avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opposition à cette décision au sein de la communauté sioniste religieuse et des partisans de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre, donc d'alors Benjamin Netanyahou, avait décidé contre l'avis des experts de la sécurité israélienne de programmer cette marche ce mardi. Bien malin Benjamin Netanyahou, il savait pertinemment qu'il ne serait plus Premier ministre à ce jour et que cette marche serait le premier grand défi pour la coalition de Yair Lapid et de Naftali Bennett.
Alors tant pour cette marche que pour la prévision que vous avez exprimée sur la durabilité de ce nouveau gouvernement, et nous aurons évidemment à suivre tout cela dans vos prochaines éditions de Koulam Radio. En tout cas, Raphaël Hassine, vous nous avez permis de dresser un paysage permettant de mieux comprendre les enjeux et la réalité de ce nouveau gouvernement et de la société israélienne face à tous ces nouveaux défis. Merci infiniment de votre éclairage et on vous retrouve bien sûr dans vos prochains journaux d'information.
Merci beaucoup Guy et je souhaite une très bonne journée à tous les auditeurs de Koulam Radio. Koulam.